أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
Dans ces versets, Dieu a décrit ces personnes qui ont accordé prééminence à leur foi sur toute autre considération mondaine. Des personnes qui, en raison de leur foi, ont reçu de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Ces personnes qui possèdent ces qualités sont les véritables croyants. Allah déclare At-Taibuna, ceux qui se tournent vers Allah avec repentir, ceux qui l'adorent. Al-Abiduna, ceux qui l'adorent. Des personnes qui adorent Dieu comme il doit être adoré. Al-Hamiduna, ceux qui louent Dieu comme il doit être loué. As-Sa'ihun, ceux qui voyagent pour la cause de Dieu en toute sincérité, ceux qui accomplissent des voyages pour la cause de la foi afin d'augmenter leur connaissance à propos de la foi. Ar-Raki'un, ceux qui s'inclinent devant Dieu en toute sincérité, ceux qui font preuve d'humilité et d'abnégation. As-Sajiduna, ceux qui font preuve d'une grande humilité et qui se prosternent en prière. Al-Amiruna bil-Ma'ruf wa Nahuna 'anil Munkar, ceux qui enjoignent le bien, ceux qui transmettent le message de Dieu et ceux qui interdisent le mal. Ils interdisent les péchés les plus évidents et interdisent aussi les péchés cachés et encouragent les gens à accomplir des actes de vertu qui sont évidents et d'autres actes qui sont moins évidents. Et il est évident qu'ils pourront le faire lorsqu'ils vont posséder eux-mêmes ces qualités, lorsqu'ils vont apporter en eux ces changements, lorsqu'ils vont éviter ces péchés et vont accomplir ces actes de vertu. Celui qui possède les six qualités mentionnées, c'est-à-dire celui qui se repent, celui qui se tourne vers Dieu en adoration, celui qui le loue, celui qui voyage afin d'augmenter sa connaissance concernant la religion, celui qui se prosterne et s'incline devant lui, certainement ces personnes possèdent ces qualités, à savoir qu'elles évitent les péchés, elles s'éloignent des péchés, et leurs paroles et leurs actes respirent la vertu. Voilà ces personnes qui vont atteindre ce statut qui a été mentionné après, Al-Hafidhuna li hududillah. Ces personnes respectent les limites fixées par Allah. Ces personnes sont parmi celles qui respectent les limites fixées par Dieu. Et Allah les accorde l'opportunité de progresser davantage dans la vertu. Vous qui êtes assis devant moi aujourd'hui, je prie et j'ai l'espoir que vous allez faire des efforts pour posséder ces qualités afin que vous soyez parmi ce groupe de personnes et que vous êtes venus avec ces intentions ici. Grand nombre d'entre vous sont parmi ces voyageurs qui ont subi maintes difficultés pour venir ici. Et vous êtes en train de participer dans la Jalsa qui débute aujourd'hui. Lorsque je partais pour la prière du matin, j'ai vu une famille, comme tant d'autres, qui a fait un long voyage et qui est venu de l'Europe pour venir ici. Il y avait parmi eux des enfants, des femmes. Ce sont des personnes qui ont accompli ce voyage au prix de difficultés. Ces personnes sont venues ici afin de participer dans la Jalsa Salana. Chacun d'entre vous a accompli un voyage quelconque pour venir jusqu'ici à Hadikatul Mahdi. Et aux yeux d'Allah, c'est là une grande qualité. C'est une qualité des jamaats, des croyants. Ces personnes accomplissent ces voyages pour la cause de Dieu afin d'accroître leurs connaissances à propos de la foi. Et c'est pour cette raison qu'Allah a donné la bonne nouvelle à ses croyants qui se tournent vers lui avec repentir, qui l'adorent, qui le louent, qui voyagent dans le pays en le servant, qui s'inclinent devant lui et qui se prosternent en toute humilité. C'est pour cette raison qu'il a fait en sorte que ces personnes fassent partie de ce groupe de personnes qui voyagent pour sa cause. Ils sont parmi ces groupes de personnes afin qu'ils affinent davantage leurs qualités. Vous êtes venus ici aujourd'hui pour un but très noble et vous êtes ici les invités du Messie promis à l'Islam. Et vous n'êtes pas venu ici pour des causes matérielles. Vous êtes venu ici pour progresser dans ces vertus, dans ces qualités qui ont été évoquées auparavant. Certes, la Nizam Jamaat est toujours prêt à aider ces voyageurs qui ont accompli ce voyage pour la cause de Dieu. Quant à ceux qui voyagent pour la cause de Dieu, eh bien, ils ne se soucient guère de leur confort et de leurs besoins matériels. Et ces personnes ont compris le but pour lequel elles sont réunies ici et essayent d'atteindre ces objectifs. Ne vous considérez jamais comme un invité ou un voyageur qui a accompli ce voyage pour une cause matérielle. Si vous comprenez cela, vous allez fermer les yeux sur les lacunes et les manquements des organisateurs. Sinon, l'on voit que dans d'autres cas, il y a des doléances. Les gens disent que là-bas, certaines personnes reçoivent un meilleur accueil et on nous a négligé, nous, alors que les organisateurs font tout pour traiter équitablement tous les invités. C'est vrai qu'il y a des invités non musulmans ou d'autres, à l'instar des chefs et des leaders, pour lesquels on a fait d'autres arrangements, et cela est tout à fait légitime. Les organisateurs font de leur mieux pour que les voyageurs et les invités puissent avoir un très bon séjour ici. Et je dis aux voyageurs que s'ils comprennent le but de leur voyage ici et s'ils veulent affiner davantage leurs vertus et leurs qualités, certainement, ils seront parmi ces croyants qui ont reçu de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Le Messie premier l'Islam honorait ces personnes qui venaient le voir pour se joindre à sa communauté. Il leur disait aussi de lui présenter tous leurs besoins sans hésitation. Mais il disait aussi à propos des voyageurs, de ceux qui vont venir pour la Jalsa, qu'ils vont recevoir tous le même traitement et qu'ils vont profiter tous du même système d'hospitalité. Mais il avait aussi dit que dans les situations ordinaires, il voulait faire comprendre à chaque invité que le but premier pour sa venue ici est d'accroître sa connaissance à propos de la foi et de se purifier l'âme et l'esprit et de se rapprocher de Dieu. Voilà le but pour lequel chaque année vous venez ici en tant qu'invité. Voilà le but pour lequel vous vous réunissez ici. Et c'est pour cette raison qu'on organise la Jalsa Salana. Et c'est pour cette raison que les invités et les voyageurs doivent venir ici. J'ai quelques conseils à donner aux invités ici. Un croyant doit toujours utiliser à bon escient son temps. C'est quelque chose de fondamental. Lorsque vous vous réunissez ici, vous allez rencontrer des parents, des amis qui viennent de très loin. Et vous aurez aussi le désir de vous asseoir avec ces personnes. Maintenant, il y a des parents qui habitent des contrées éloignées. Il y a des gens qui vont venir de l'extérieur. Vous allez rencontrer des amis qui habitent d'autres pays. Ainsi donc, par la grâce d'Allah, le Messie premier l'Islam a créé cette Jamaat qui a mis fin à toutes les frontières entre les pays et les peuples. Ainsi donc, il a donné naissance à une grande fraternité. Et vous êtes venus pour participer dans la Jalsa et il a dit qu'un des objectifs de la Jalsa et de renforcer cette fraternité entre les membres de la communauté. Afin que nous soyons un peuple uni. Et il est évident que pour cela, on va devoir se rencontrer, se réunir. Ainsi, on va se connaître davantage Et l'on doit passer son temps à écouter les discours et c'est après cela qu'on aura l'occasion de se rencontrer et de parler. Mais l'on voit que dans d'autres cas, ces conversations sont si longues que les gens passent leur temps, même la nuit, à papoter. Et lorsqu'ils partent pour manger, des fois, ils prennent beaucoup de temps et passent leur temps à papoter et les autres doivent venir les faire des rappels concernant la prière. Et quant aux invités qui sont accueillis chez les parents à la maison, gaspillent le temps de leur hôte et oublient l'objectif de la Jalsa Salana. Il faut donc suivre la voie du milieu dans chaque chose. Voilà la qualité distinctive des croyants. Dans le Saint-Coran, il est dit que lorsque le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui invite les invités musulmans, ils doivent se comporter d'une bonne façon et ne doivent pas perdre le temps du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce commandement s'applique dans une situation spéciale et concerne en fait le statut élevé du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui et nous fait comprendre à quel point le temps du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui était précieux. Mais c'est aussi un conseil encore plus général et qui concerne le temps du croyant, à savoir que la musta'nithina lil hadith, ils ne doivent pas perdre leur temps à papoter. C'est vrai que vous devez vous connaître les uns les autres, vous devez essayer de vous connaître les uns les autres et vous allez devoir renforcer votre lien d'antan. Mais vous devez aussi respecter le temps. Et si vous êtes en train de perdre votre temps à papoter, vous devez comprendre que vous êtes en train de gaspiller aussi le temps des autres. Les gens qui sont ici et qui travaillent sont très occupés. Et les invités qui viennent de l'extérieur les forcent ces gens à s'asseoir avec eux pour papoter. Et si les autres ne s'assiedent pas avec eux, ils commencent à les critiquer. Ce sont là des choses que l'on doit éviter. Cela ne concerne pas uniquement ceux qui sont venus hors du continent européen, mais cela concerne ceux qui sont venus du continent européen, car ces personnes sont en vacances et ne comprennent pas que les autres, c'est-à-dire ceux qui sont ici, ne sont pas en vacances. Lorsque des gens se réunissent en grand nombre dans un endroit restreint, il se peut qu'il y ait des frictions. Si un invité, par exemple, offense un volontaire et que le volontaire réplique, la situation peut s'envenimer et il y aura toute une chaîne d'animosité qui prendra naissance. Si celui qui a une doléance à émettre est d'ici, eh bien, cette chose perdure. Allah déclare à propos du véritable croyant il est celui qui maîtrise sa colère. Je conseille celui qui offense et celui qui est offensé qu'ils doivent avoir tout le temps en tête l'atmosphère pure de la Jalsa. Les invités doivent fermer les yeux sur les faiblesses des autres et doivent pardonner. Si on vous a offensé, si on a lésé vos droits, vous devez faire preuve de patience. Et les volontaires aussi doivent essayer de maîtriser leur colère en raison du fait qu'ils sont en train d'accueillir des invités. Cette année-ci, on va prendre d'autres mesures de sécurité concernant les voitures et les vérifications d'identité. C'est pour cette raison qu'il se peut qu'il y ait des retards. Selon le rapport que l'on m'a donné, il y a beaucoup de retard au point d'entrée des femmes en raison du fait que celles-ci ont apporté beaucoup de sacs. À l'avenir, durant les 2 jours à venir, les femmes doivent apporter moins de bagages, moins de sacs. Certaines ont apporté plus de 3 ou 4 sacs. C'est pour cette raison qu'il y a des retards. On m'a dit qu'il y a foule au point d'entrée des femmes et que les femmes vont prendre beaucoup de temps à entrer dans le chapiteau alors que tout s'est très bien passé du côté des hommes. En tout cas, elles seront au soleil. C'est pour cette raison que certains seront mal à l'aise. Si une personne est accompagnée d'une autre qui n'est pas bien portante ou qui est handicapée, son accompagnateur sera toujours en retard. C'est vrai qu'on a pris des mesures pour les handicapés ou pour ceux qui sont en difficulté et qu'on va essayer de les faire passer rapidement. Mais en tout cas, leurs accompagnateurs vont passer du temps pour les vérifications. Et cette personne qui est handicapée sera elle aussi en difficulté. C'est pour cette raison qu'il y a des critiques ici et là. Tout cela pourra dégénérer et donner naissance à une situation malsaine. Il incombe donc aux croyants de faire preuve de patience en toute situation. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré que la plus grande des qualités est de maintenir la relation avec celui qui a coupé sa relation avec vous et de donner à celui qui ne vous a rien donné. Cela ne veut pas dire que vous devez vous venger d'une personne qui ne vous a pas aidé auparavant. Le saint prophète a aussi dit que vous devez pardonner à celui qui vous a offensé. Ici, il n'est pas question d'offense. Ici, il est question d'un devoir qu'accomplissent les volontaires et les bénévoles. Si par ignorance, un bénévole a commis une erreur, ou si il y a des retards dans les vérifications ou s'il y a des doutes à propos d'une personne, vous ne devez pas en être offensé. Vous devez faire preuve de patience. 3 choses ont été mentionnées par le saint prophète Mohammed B.S.A. lui. Ces 3 choses nous mènent vers la patience et la persévérance. Si l'on est persévérant, tout va bien se passer sans heurts. Je m'adresse à la fois aux bénévoles et aux invités, et je leur dis qu'ils doivent tous deux faire preuve de patience. Il y a un autre point que je veux évoquer à propos des vérifications et des bénévoles qui travaillent dans ce département. Il y a certains jeunes, des personnes non expérimentées qui travaillent dans ce département. J'espère qu'il n'y aura pas de tels incidents au cours de la Jalsa, mais il y a eu de tels incidents dans d'autres situations où des jeunes n'ont pas eu un comportement louable. Le système qu'on a mis en place est tout à fait nouveau. J'ai dit que dans ces endroits, on doit placer des personnes qui sont sérieuses. Mais malheureusement, dans certains cas, on a placé dans ces endroits des personnes qui font tout le temps des blagues et qui ne le font pas en accord à la situation. Et des fois, pour plaisanter, elles prennent beaucoup de temps pour vérifier une personne qu'elles connaissent et la situation peut facilement dégénérer. C'est pour cette raison que l'on doit placer à ces points d'entrée des personnes sérieuses ou des sous-officiers. Et lorsque vous allez perdre votre temps à plaisanter, il y aura une longue queue derrière vous. Et ces gens vont devoir attendre. J'ai reçu quelques doléances de ce genre. C'est pour cette raison que je suis en train d'en faire mention. En tout cas, tous les invités sont venus ici pour un objectif noble. Essayez d'atteindre cet objectif. Essayez de générer cette fraternité telle que le désirait le Messie premier alayhi salam. Essayez d'être à l'image des croyants qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Ruhama ou Bainahum. Ils font preuve d'aménité et d'amour dans leurs relations mutuelles. Ils le font afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et afin d'avoir ces grâces de Dieu, ils ferment les yeux sur les manquements des autres et ils passent leur temps dans l'adoration de Dieu en se prosternant et en s'inclinant devant Dieu. Il incombe donc à tout croyant et à tout voyageur qui est venu ici de consacrer son voyage à la cause de Dieu. La dernière fois, j'ai donné des conseils aux hôtes et aux bénévoles et j'ai dit que les invités regardent de très près ces volontaires et ces bénévoles et ils sont très impressionnés par les qualités de ces bénévoles. Et chaque bénévole est en train de prêcher silencieusement le message. C'est pour cette raison que toute personne qui participe à la Jalsa, tout invité de la Jalsa, est en fait un ambassadeur de l'Ahmadiyya. Chaque année, je reçois des rapports d'ici, d'Allemagne et d'ailleurs, des rapports dans lesquels il est dit que les invités qui étaient venus pour la première fois étaient tout impressionnés par cette rencontre. Le fait que tout se passe très bien sans heurts et qu'il n'y ait pas de difficultés. En voyant tout cela, tous disent que c'est pour la première fois qu'on a vu cette facette de l'islam et des musulmans. En fait, leur connaissance à propos de l'islam est uniquement basée sur des oui-dire. En tout cas, tout Ahmadi qui participe à la Jalsa est en train de prêcher silencieusement l'Ahmadiyya. Ceux qui participent à la Jalsa ne sont pas en train de réformer leur personne uniquement, mais sont en train aussi de guider beaucoup de personnes dans la bonne direction. Grâce à cette action de leur part, ces invités du Messie premier l'Islam sont en train de profiter davantage de l'amour de Dieu. Car pour la cause de Dieu, ils sont en train de faire preuve de patience et de persévérance dans certaines situations. Et ils sont en train d'exhiber ces vertus que prône l'islam. Et c'est pour cette raison qu'ils profitent aussi des prières faites par le Messie promis l'islam pour ceux qui participent à la Jalsa. Il y a un point vers lequel j'attire l'attention des invités chaque année, mais il y a certaines personnes qui font la sourde oreille. Cela concerne le fait que la Jamaat a tout organisé pour accueillir les gens, pour les héberger. Cela ne concerne pas ceux qui viennent de l'Europe ou des pays développés. Cela concerne ici ceux qui viennent de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. Ces personnes, si elles profitent de l'hospitalité de la communauté, ne doivent pas rester sur le territoire britannique plus de 3 semaines. Cela concerne aussi ceux qui viennent de l'Afrique. Si l'on n'agit pas ainsi, on va mettre les organisateurs en difficulté et cela va mettre aussi en difficulté toute la communauté, car nous n'avons pas autant de place pour héberger tant de personnes. On a mis en place des hébergements temporaires. Cela peut concerner les bâtiments de la communauté ou cela peut concerner la maison d'un particulier ou la mosquée. Les maisons sont limitées ici, mais en tout cas, il y a les mosquées et les bâtiments de la communauté, on peut héberger les gens pour un temps limité uniquement. Car après cela, les services de l'immigration et certains départements de l'État commencent à venir faire des contrôles. Et nous avons laissé une bonne impression sur l'État. Ils savent que nous respectons la loi. Si l'on ne suit pas ces directives, Si l'on ne respecte pas la loi, cela peut laisser de mauvaises impressions. Vous allez devoir donc respecter ces règles si vous voulez rester ici pour plus longtemps. Vos parents, vos proches ou vos amis doivent vous héberger s'ils sont d'accord pour vous héberger. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donné des directives claires à ce sujet. Il a dit que l'invité ne doit pas profiter indûment de l'hospitalité de son hôte et mettre son hôte en difficulté. Vous êtes venu ici pour un but noble et vous allez devoir prendre des précautions à ce sujet. Si l'on impose sa présence dans un endroit quelconque, ce sera comme si l'on a cambriolé la maison de quelqu'un. Et l'on ne peut pas attendre de telles actions de la part d'un croyant. D'une part, Allah déclare que vous devez saluer les gens avant d'entrer dans une maison. Il est dit: La tadkhulu buyutan, n'entrez pas dans les maisons d'autrui, hatta tastanithu, avant d'avoir eu la permission d'y entrer. Des gens demandent la permission avant de se présenter en tant qu'invités, mais certaines personnes sont des invités pour une longue période. Ainsi, elles mettent en difficulté les organisateurs ou les personnes qui les hébergent. C'est pour cette raison que vous devez dissiper les soucis des organisateurs. Et il est dit à propos de l'invité que « Tusallimu ala ahliha ». L'invité doit saluer ou envoyer ce message de paix aux gens qui vont l'héberger. Il doit leur dire que moi j'apporte que la paix en tant que croyant. Je ne suis pas parmi ces invités qui mettent les autres en difficulté. Je suis venu pour un but noble. Et après avoir atteint cet objectif, puisque je suis venu de très loin, je vais rester ici pour quelque temps. Et après quelque temps, je vais retourner chez moi. Et vous ne devez pas vous mettre en difficulté pour moi. Et vous n'allez pas entendre de doléances de ma part. Je ne vais pas dire que vous ne vous êtes pas acquitté de vos devoirs envers moi. Le croyant est celui qui transmet la salutation de paix et qui fait augmenter l'amour. Je suis venu en tant que croyant. J'ai accompli ce voyage pour la cause de Dieu. Il est impossible que je puisse mettre en difficulté ceux qui m'hébergent. Allah déclare ailleurs que vous devez transmettre ces paroles de paix à ceux qui vous hébergent. Il est dit « Tahiyyatun min indillah mubarakan tayyiba ». C'est là le message de paix. Ce message vient de la part de Dieu. C'est une prière emplie de bénédictions. Lorsque les hôtes et les invités vont se saluer les uns les autres, d'une part, ils vont dissiper toute crainte et toute appréhension, et ainsi ils vont profiter tous deux de ces prières qui viennent de la part de Dieu. Des prières qui sont pures, des prières qui sont emplies de bénédictions. Ce sont des paroles qui sont pures, qui sont emplies de bénédictions. Ces paroles seront source de pureté et de bénédiction à la fois pour les hôtes et pour les invités. Voilà donc cette atmosphère pure que Dieu veut générer parmi nous. Mais si nous détruisons cette atmosphère par nos ruses et en raison de notre égocentrisme, ce sera là notre plus grand malheur. et aucun croyant ne peut imaginer une chose pareille, à savoir le fait d'être privé des bénédictions de Dieu. Nous voyons que ceux qui ont vécu en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étaient sans façon, et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, traitait toutes ces personnes d'une telle façon que celles-ci ont progressé vers les sommités de la spiritualité. Il a détruit tous ces murs d'appréhension, tous ces murs d'égocentrisme, et il a fait leur réforme spirituelle. Voilà les qualités sublimes qu'il a créées en ses compagnons en raison de son pouvoir sanctifiant. Ainsi, il a fait de ses compagnons des modèles pour nous. Dans ce hadith, l'on trouve l'exemple d'un compagnon. Hadrat Abu Masoud radiallahu anhu déclare qu'une personne qui s'appelait Abu Shuaib s'est adressée à son serviteur et lui a dit de préparer un repas pour 5 personnes. Il a dit que j'ai vu les traces de la faim sur le visage du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ensuite, il est parti voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et les a invités. Lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est parti, une 6e personne les a accompagnés, une personne qui n'était pas présente lors de l'invitation. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est arrivé à la maison de son hôte, il a dit qu'il y a une personne parmi nous qui n'était pas présente à l'époque lorsque vous nous aviez invités. Si vous nous donnez la permission, je vais le faire entrer chez vous. L'hôte a donné la permission pour cette 6e personne. Voilà donc ces excellences que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, voulait générer en ses compagnons. Et il l'a fait grâce à son pouvoir sanctifiant. Sans exception, toute personne qui a profité de sa présence ont possédé ses qualités. S'il le voulait, il aurait pu dire à cette personne que nous avons été invités et puisque toi tu n'as pas été invité, ne nous accompagne pas. Mais il l'a laissé venir avec lui. Il était un très grand mudarris et ainsi il voulait réformer ses compagnons par des exemples pratiques. Et il avait aussi cette certitude que la personne qui était emplie d'amour pour moi et qui a vu les traces de la faim sur mon visage et qui m'a invité ne va pas refuser d'accueillir cet invité. Et il a aussi donné la leçon à l'autre que dans de telles situations, si l'autre refuse de vous accueillir, vous devez retourner sans en être offensé, car tel n'était pas votre droit. C'est là une faveur de la part de l'autre. C'est pour cette raison que vous ne devez pas être aveuglé par votre égocentrisme. Les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ont atteint ces niveaux élevés dans ce domaine. Et il est dit qu'il y avait un compagnon qui cherchait ses occasions pour suivre ce commandement du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à savoir que si l'autre me demande de partir, je dois partir sans en être offensé. Mais tous les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ont été réformés par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Comment se peut-il être qu'un autre puisse refuser d'accueillir une personne qui frappe à sa porte? Ce compagnon a fait main et fort pour avoir l'occasion d'être refusé à une porte, mais il n'en a pas eu l'occasion. Cela montre en fait le désir ardent qu'avaient les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour mettre en pratique cette persévérance. C'est une qualité que chacun d'entre nous va devoir adopter et nous allons devoir la mettre en pratique. Vous êtes venu pour la Jalsa Salana. Vous allez rencontrer des gens que vous connaissez, vous allez les saluer. Mais la beauté de cette société islamique, selon le saint prophète Mohammed Mustafa, est que vous allez devoir saluer toute personne, que vous la connaissiez ou pas. Par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de personnes qui mettent en pratique ce commandement. Et les nouveaux Ahmadis en sont grandement influencés. Le saint prophète a dit que vous devez saluer toute personne, que vous la connaissiez ou pas. Durant ces jours, vous devez donc vous saluer les uns les autres afin que cette habitude soit permanente. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Saluez-vous les uns les autres » et c'est là une des beautés de l'islam. C'est un enseignement sublime à condition que l'on comprend l'esprit derrière ce message. La salam ou cette salutation est une expression d'amour afin que l'on puisse créer cette fraternité. Ce serait encore très bien si certaines personnes puissent mettre de côté leur animosité d'antan et mettre de côté leur dispute et se pardonner les uns les autres et transmettre ce message de paix et être parmi ces croyants qui ont atteint l'objectif de ce voyage spirituel. Le Messie premier, l'Islam, nous a donné une leçon en tant qu'invité. C'est un fait que tout croyant doit toujours avoir en tête. En tant qu'invité, vous devez avoir tout le temps cet exemple. Tous les voyages d'un prophète sont accomplis pour la cause de Dieu. Chaque instant de sa vie est consacré à Dieu. À chaque moment, il essaye de suivre les commandements de Dieu et essaye d'avoir le plaisir de Dieu. Il y a un incident au cours de la vie du Messie premier, alayhi salam, un incident qui nous montre ses qualités en tant qu'invité. C'est un récit rapporté par Cheikh Yaqub Irfani. Il est dit que le Messie premier, alayhi salam, a participé dans un débat entre les chrétiens et les musulmans. Ce débat s'est tenu à Amritsar en 1893. C'est un débat qui a duré 15 jours. Le titre de ce débat était Jang-e Muqaddas. Et le Messie premier islam a représenté les musulmans et il a présenté des signes et des arguments et des preuves évidentes pour prouver la supériorité de l'islam. Ce débat a été transcrit dans ses ouvrages sous le titre de Jang-e Muqaddas. Un jour, alors que le Messie premier islam logeait chez quelqu'un, en raison du grand nombre d'invités, on avait oublié de présenter le repas du Messie premier islam. Et en plein milieu de la nuit, on s'est souvenu que le Messie premier islam attendait son repas. Après avoir attendu longtemps, lorsque le Messie premier islam a demandé son repas, les hôtes étaient tous soucieux car il n'y avait plus de repas à lui présenter et on ne pouvait pas non plus rien acheter. Lorsqu'on a fait savoir cela au Messie premier islam, il a tout simplement dit qu'on ne doit pas s'en faire et qu'on ne doit pas s'en soucier. Il a dit, regardez la table, il se peut qu'il y ait quelque chose là-bas. Et on a regardé ce qu'il y avait, et là-bas, on n'a trouvé que quelques miettes de pain. Le Messie premier islam a dit que cela va me suffire, et il s'en est contenté. Voilà donc comment a agi cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes de ceux qui sont dans sa communauté. Nous déclarons que nous sommes de sa communauté. Il nous incombe de faire preuve de patience et de persévérance et d'exprimer cette gratitude. Durant ces 3 jours, si un invité a vu des lacunes de la part de son hôte, il doit faire preuve de patience, il doit pardonner les autres. Il doit certes faire des rappels, mais il doit le faire avec amour. Tout comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, les invités doivent être sans façon. Et si l'on n'attire pas l'attention des autres sur des manquements, il n'y aura pas de l'amélioration. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse profiter des bénédictions de la Jalsa Salana. À la fin, je vais attirer votre attention de nouveau concernant la sécurité. Et j'ai dit que cela ne concerne pas uniquement les préposés de la sécurité. Il incombe à tout Ahmadi présent pour la Jalsa de prendre des mesures de sécurité et de surveiller ses alentours. Et si vous voyez quelque chose de douteux, vous devez informer immédiatement les organisateurs. Il y a aussi l'environnement de la Jalsa, la propreté. Il y a aussi des directives qui ont été données. Vous devez mettre en pratique ces directives et vous devez passer votre temps de la prière. Qu'Allah nous en donne la possibilité. Amin.